culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour à toi, cher auditeur, chère auditrice. J'ai grand plaisir à te retrouver sur cette antenne dans notre culte espoir. Nous allons partager ensemble un temps particulier avec les amis qui sont avec moi aujourd'hui, Mildred, Juliana.
Salut, bonjour.
Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Nous avons aussi dans ce studio Pierrick Avelin. Bonjour Pierrick.
Bonjour.
Tu es pasteur aujourd'hui, engagé à 100% auprès de la jeunesse, oui. Dans notre fédération de la Suisse romande. On s'est connus il y a près de 15 ans.
Oui.
Et tu avais une guitare électrique dans les mains. Toujours musicien.
Je l'ai toujours, oui.
Super. Alors, nous avons commencé depuis la semaine passée une série de 3 cultes avec toi sur un sujet bien particulier dont je te réserve la surprise en musique.
Quel immense amour! La venue de Jésus sur cette terre est un vrai mystère. C'est une très belle chanson. Nous voilà dans la chronique « Dieu dans ma semaine ». Alors, comme vous savez, j'aime étudier la Bible J'essaye de connaître davantage ce Dieu si grand et si puissant. J'ai envie d'avoir la présence de Dieu constamment à mes côtés. Je souhaite marcher avec lui et entendre sa voix. Le top pour moi, ce serait vraiment de lui poser une question et tac, il me répond. Ou encore, quand j'ai des doutes, tac, il me dit ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Alors, je suis consciente quand même que Dieu m'entend, qu'il écoute mes prières et qu'il les répond. Mais vivement qu'on puisse avoir un dialogue beaucoup plus instantané, en fait, au tac au tac. Je sais qu'un jour, je pourrais aussi lui parler face à face. Je pourrais le voir. Et notre relation sera tellement plus simple. Mais en attendant ce jour-là, je fais ce que je peux. Et comment je fais pour être un peu plus proche de Dieu dans mon quotidien? Alors, tous les jours, ou presque, je prends un temps pour lire la Bible et d'autres livres qui me rapprochent aussi de Dieu. Je prie et médite. Et tout ça avant que les autres personnes de ma famille se lèvent. En tout cas, j'essaye. J'aime parler de ma foi aux autres. J'aime échanger. Et depuis quelques temps, je vous raconte, j'ai la joie de partager des moments d'études bibliques avec une amie, avec Laurence. Alors, en temps normal, voilà comment ça se passait. On se retrouvait chez elle ou chez moi avec une bonne tisane. Et nous partagions là la Bible au sujet de Dieu. Mais en temps de crise sanitaire comme maintenant, on se contente de se retrouver par Zoom. Ce n'est pas pareil, on est bien d'accord. Mais nous pouvons quand même approfondir nos connaissances ensemble. Et d'autant plus que depuis quelques temps, nous avons du renfort. Avant, nous étions deux à étudier la Bible et maintenant, nous sommes quatre. Deux, nous sommes passés à quatre personnes. Et il faut quand même dire que j'ai un ami pasteur qui connaît très, très bien la Bible sur le bout de ses doigts. Et donc, c'est quand même un atout. Alors, je peux vous dire que Dieu, dans ma semaine, passe aussi par là. Ces rencontres me font vraiment du bien. Et nous nous rendons compte que Dieu n'a rien fait par hasard. Je suis convaincue que Dieu nous aime. Je suis convaincue que de la même manière qu'il s'est révélé à des bergers il y a si longtemps, il y a des siècles, il se révèle aussi à nous aujourd'hui.
Merci Mildred pour ce partage. C'est chouette de voir comment Dieu agit même pendant cette période de pandémie, si on veut bien lui laisser un peu de place.
C'est vrai.
La promesse, plus encore la bonne nouvelle du jour, se trouve dans Luc 2, versets 10 et 11. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Waouh, l'ange est en train de dire au berger, et à nous aussi aujourd'hui, que notre Sauveur est né comme tout être humain sur cette terre, comme un petit bébé fragile. Et il va non seulement vivre la même vie que nous, les mêmes défis et difficultés, mais il va aller jusqu'à mourir pour nous sauver de cette vie. Vous vous rendez compte de l'amour qu'il a pour nous ? Quelle bonne nouvelle ! Je ne sais pas vous, mais ça me donne envie de louer Dieu pour tout ça. Et ça tombe bien car Marina nous a préparé un temps de louange.
Ah oui, parce que c'est un temps de joie, un temps de célébration hein, que nous voulons vivre avec toi, cher auditeur, et ensemble. La naissance de Jésus a été un événement. Et ce sont les anges qui ont fait une première annonce de la naissance du Fils de Dieu. Qu'est-ce que les anges ont annoncé ? Eh bien, Rolf Schneider, accompagné du groupe Sweet Witness, nous annonce cette bonne nouvelle.
Aujourd'hui, dans dans la ville de David. Il vous est né un sauveur. Il est le Christ, le
Nous avons entendu cette bonne nouvelle en chanson, très dynamique. Et nous allons partager maintenant un temps de témoignage. C'est un témoignage qui sera partagé aujourd'hui, un témoignage d'une personne ordinaire qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'elle faisait son travail de tous les jours, là, dans la nuit, où rien de nouveau ne semblait pouvoir arriver finalement, et c'est justement là que Dieu a choisi de lui parler, de l'interpeller. Je lui laisse la parole.
Bonsoir les amis, grande joie pour nous tous. Si vous permettez, je m'occupe un instant de mes moutons et je suis à vous. Vous voulez que je me souvienne? Ce ne sera pas difficile. J'ai si souvent convoqué cette scène dans ma mémoire. Voilà, les moutons bougeaient un peu dans leurs enclos tout proches. On entendait encore quelques bêlements. J'ai levé la tête. Nathanaël, mon camarade, du bout de son bâton, se mit à attiser le feu somnolent et quelques étincelles s'échappèrent vers le ciel profond, comme pour rencontrer les étoiles. C'est alors qu'une lumière soudaine nous fit sursauter le cœur, comme un agneau surpris. Puis, c'est un calme immense. Le flot lumineux baigne nos yeux, et du milieu des douces vagues chaudes, c'est un messager du ciel qui nous parle à nous, les tout-petits, les pauvres bergers. Je viens vous annoncer quelque chose d'extraordinaire qui me fait briller les yeux. Un bébé comme il n'y en a pas d'autre, est né ce soir. C'est un bébé roi, un bébé seigneur donné de Dieu. Il est né pour vous, c'est l'envoyé pour régler les problèmes de ceux qui le veulent bien. Il est facile à reconnaître, il est couché dans une mangeoire. Alors, dans la campagne avoisinante, c'est une grande musique de joie, avec des trompettes éclatantes, un grand cœur de lumière acclamant le Seigneur. Je me souviens, je me suis enveloppée dans mon manteau, car il faisait frisquet, et j'ai dit « Allons-y !» Et nous sommes partis avec des pieds plus légers que d'habitude, et des petits airs de flûte, plein la tête, vers la ville bleue et blanche, sous la lune. Moi, je marchais en tenant, serré au fond de moi, cette pensée, comme une pierre bien chaude dans mon poing. Notre roi est né dans une mangeoire. C'est pas croyable. Et c'est là, tout près, comme l'a dit le prophète. Nous n'avons même pas cherché. Notre cœur conduisait notre marche. J'entendais, je voyais, je sentais le chemin. J'allais droit. Nous sommes allés à l'hôtel directement, là où descendent les voyageurs. Mais pas dans une chambre bien équipée, ou même dans la salle d'hôte, mais à l'écurie. C'était là. Nous avons trouvé l'enfant. Ah, comme elle le regardait, comme elle l'enveloppait, suspendue à sa respiration, avide de le voir vivre. Marie, si petite et si grande à la fois, dirigeant tout vers son fils dans la litière de paille. Je l'ai vu, l'enfant Seigneur. J'ai vu l'espoir, j'ai vu l'espérance, j'ai vu la tendresse de Dieu. Je me disais, notre enfant roi est là. J'ai raconté à Marie et à Joseph la lumière et le messager céleste et la musique sur la campagne endormie. Et ils ont hoché doucement la tête avec des yeux pleins de merveilles. Marie a pris l'enfant pour lui donner à boire. Nous sommes partis silencieusement, sans même faire craquer les brindilles. Nous étions soulevés au-dessus des jours passés vers la lumière. Lorsque nous avons rejoint les chemins solitaires auprès des vignes et des figuiers, le flux du cœur a débordé et nous avons chanté à plein poumon tout neuf. Nous, qui étions dans les ténèbres, nous avons vu le soleil levant. Et nous marchions sur un chemin de paix. Et nous chantions comme délivrés, comme acquittés, libres d'un bonheur royal. Nous chantions gloire, gloire à la parole descendue réellement parmi nous. Petite encore, germe de puissance déjà. Amour, amour, impossible d'oublier. Ce témoignage, vous le trouverez dans le recueil « Les ombres et la lumière » de Jean-Jacques et Françoise Henriot. Vous l'aurez compris, ce témoignage est celui d'un des personnages clés de l'histoire de cette fameuse nuit à Bethléem. Un des bergers à qui l'on a annoncé la plus merveilleuse des nouvelles, l'arrivée d'un sauveur dans une vie qui semblait bien sombre et monotone. La naissance d'une lumière en plein milieu des ténèbres.
Et oui, les anges ont annoncé la naissance de Jésus. Et c'est là qu'on découvre, hein, à qui se sont-ils adressés ? À des rois, des princes ? Non, le premier Noël a été adressé, comme nous le dit ce récit que Juliana vient de nous lire, à des bergers, des simples bergers.
Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver. Soufflaient tous les vents. Noël, 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 Noël. Un sauveur nous est né, chantons Noël. Et levant les yeux au ciel, découvrirent au loin une étoile brillant la nuit comme le jour. Trois grands rois de l'Orient par l'étoile avertis aussitôt fire route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons
on lit les récits bibliques de Noël, on se rend vite compte que le texte est beaucoup plus sobre que nos crèches. Il y avait en réalité beaucoup plus d'absents que de présents. D'ailleurs, le bœuf et l'âne ne sont qu'une évocation d'un texte de l'Ancien Testament. Rien ne nous est précisé dans les évangiles. À Bethléem, il n'y avait ni bœuf ni âne, il n'y a que Jésus, ses parents, et aussi des bergers et des mages. La Bible, d'ailleurs, ne précise ni leur nom, ni leur nombre, et ce n'est que plus tard, notamment pour les mages, qu'un texte apocryphe, c'est-à-dire qui a été écrit au nom de quelqu'un d'autre, en l'occurrence Jacques, mais on sait que ce n'est pas Jacques qui a écrit ce texte, puisqu'il date du deuxième siècle, c'est ce texte qui fait de ces mages des rois, qui sont trois frères, Melchior qui régnait sur les Perses, le second Balthazar qui régnait sur les Indiens, et le troisième Gaspard qui possédait les pays arabes. Mais en réalité, la Bible ne disait rien de tout cela. En fait, au VIe siècle, l'Église et par la suite des artistes, ils vont insister sur la royauté des mages. On en fera des rois pour montrer que l'autorité civile doit être soumise à l'autorité spirituelle. Les rois mages plient les genoux devant Jésus et surtout, bien sûr, devant ses successeurs. Mais la réalité, c'est qu'aucun des grands de ce monde n'est venu accueillir Jésus. Ni le souverain en place, le roi Hérode, qui cherchera au contraire à lui prendre la vie, ni les prêtres qui connaissaient pourtant l'adresse puisqu'ils l'ont donnée au roi, mais qui ne se sont même pas donné la peine de se rendre sur les lieux pour voir si la prophétie se réalisait vraiment. Pas de sage-femme juive non plus, sage-femme que Joseph aurait trouvée dans la région de Bethléem. La crèche est bien vide en fait. Et comme le dira Jean dans son évangile, la parole est venue chez elle et les siens ne l'ont pas reçue. Heureusement qu'il a ajouté en disant « Mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et dans le récit de la Bible, ceux qui l'ont reçue ont de quoi nous surprendre et nous étonner. Et c'est ce que je vous invite à découvrir ensemble. Je lirai un premier extrait dans l'évangile de Luc au chapitre 2, le texte qui nous a été lu, mais on va prendre à partir du verset 8. Et on lira un peu plus loin. Voici ce qu'il est dit, Luc chapitre 2. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car
car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup de monde. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment ». Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui y est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître ». Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Quand on pense aux bergers, on se remémore peut-être nos fameuses scènes de crèche de Noël ou les Santons de Provence, pour ceux qui en ont déjà vu. Quand on pense à eux, on pense au bon sens, à la bonne vieille sagesse populaire, à des gens bons, simples de cœur. On pense à la douceur de la peau de mouton. Cette douceur qui est associée souvent à des textes comme le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et encore une fois, la réalité, malheureusement, est bien éloignée de cette paix qui a bercé notre enfance. Parce qu'un berger, à l'époque, c'était tout sauf cela. C'était un homme rude, habitué à vivre une vie dure, quelqu'un de brutal, d'aguerri au combat contre les prédateurs qui menaçaient son troupeau. Un homme parfois insociable, qui partageait sa vie avec des brebis à la conversation très limitée. À cette époque, le berger, c'était plutôt quelqu'un dont on avait peur. Il valait mieux ne pas le croiser pendant la nuit. Berger, brigand, parfois on avait souvent tendance à confondre l'un et l'autre. Et voilà que la Bible nous raconte que ce sont les premiers à rendre gloire à Jésus. Les premiers à être visités par les anges. Les premiers à le reconnaître comme sauveur et à l'adorer. Et après les bergers viennent les mages. On découvre ça dans l'évangile de Matthieu. Je lirai à partir du chapitre 2, verset 1, une sélection de versets. Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître le roi des Juifs ?» car nous avons vu son étoile apparaître en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Après cela, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant, puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour entrer dans leur pays. Pour les mages ici, on est bien évidemment encore et toujours dans une situation atypique. Le récit nous présente des mages qui viennent d'Orient, qui se présentent à Jérusalem. Ce sont des païens ici. Pour les juifs de l'époque, c'était choquant. Ils étaient probablement informés, si ce n'est instruits, par les juifs descendants de ceux qui avaient été déportés à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Ces juifs formaient dans cette contrée une vaste colonie. Ces mages ne sont ni plus ni moins que des astrologues. Ils observent le ciel, le mouvement des astres, et ils sont consultés par les souverains pour les décisions qu'ils ont à prendre. Et c'est une horreur, encore une fois, ceux qui rencontrent Jésus sont ces idolâtres, des païens et même des babyloniens. Là où le roi Hérode ne reconnaît même pas Jésus, là où le système politique juif cherche à le faire tuer, la Bible nous présente des païens astrologues qui, eux, reconnaissent en Jésus, celui qui est venu comme sauveur sur la terre. Parce qu'ils ne cherchent pas seulement à voir Jésus pour lui rendre hommage, à lui offrir simplement des cadeaux, ou pour fonder une tradition de Noël où on offre des cadeaux aux enfants. Ils cherchent Jésus parce qu'ils veulent se prosterner devant lui, ils veulent l'adorer. Les astres étaient adorés par les païens, or les mages suivent une étoile qui annonce la venue de Jésus, et ils discernent ici dans le plus faible des humains celui qui règne au plus haut des cieux. Curieux épisode quand même que celui des mages qui viennent adorer le roi des rois dans une étable, alors qu'il devait se trouver dans un palais. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux rencontres, entre Jésus et les bergers, et Jésus et les mages venus d'Orient? Je crois qu'en ce temps de Noël, il faut être prêt encore une fois à se laisser bousculer. L'esprit de Noël, c'est reconnaître qu'il ne faut juger personne. Il est trop facile de catégoriser les gens, de les mettre dans nos petites boîtes. Lui, méchant. Lui, ah, il est bon. Commençons donc par ne pas juger l'autre et surtout à ne pas l'enfermer dans les apparences que notre société nous impose. Vivre et actualiser le message de Noël, c'est croire que le meilleur peut se manifester là où on s'y attend le moins. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que les plus beaux exemples de foi mis en évidence par Jésus dans la Bible viennent de personnages auxquels on s'y attend le moins? Des Samaritains, des Romains, ouais, des païens, et chaque fois des personnes que les Juifs mettaient plutôt de côté. Un jour, on demande à Jésus d'épater la foule par des miracles, et il va répondre en disant que il n'y a pas de plus grand miracle que le signe de Jonas. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce passage. Ce qui a interpellé, qui nous interpelle, c'est quoi le signe de Jonas? Parce qu'il faut se souvenir de Jonas, ce prophète en Israël, qui a été appelé par Dieu à prophétiser hors des frontières du pays, chez les Assyriens, chez les ennemis dans leur capitale à Ninive, ceux qui avaient persécuté le peuple d'Israël, qui étaient particulièrement cruels envers eux. Aller sauver ceux dont on souhaitait la mort. Probablement même que Jonas a accepté cet appel parce qu'il souhaitait leur destruction, en se disant « Encore 3 jours, Ninive sera détruite et enfin on sera débarrassé d'eux, peut-être. »
Je vais avec plaisir annoncer leur destruction, finalement.
C'est ce que je souhaite, voilà. Et ce qui est assez ironique, c'est que bien malgré lui, Jonas va être l'instrument de Dieu pour apporter la vie. Ouais. Ses ennemis sanguinaires et fondamentalement mauvais, ceux dont aujourd'hui on se serait dit mais Dieu, de toute façon, il ne les intéresse pas. Ça ne sert à rien que je leur parle, ils ne vont jamais se convertir. Ça ne sert à rien de leur annoncer la bonne nouvelle. En plus, avec tout le mal qu'ils font, comment espérer que du bon peut en sortir? Ce sont eux qui ont accueilli Dieu dans leur vie et qui se sont laissés transformer par lui. Et c'est toute l'ironie de l'histoire de Jonas, c'est que les Ninivites étaient probablement bien plus proches de Dieu que n'était le prophète lui-même. Et aux yeux de Jésus, voilà le plus grand des miracles, le fameux signe de Jonas. Parce que le plus grand des miracles, c'est de voir la vie surgir là où on s'y attend le moins. De voir se convertir même ceux qui nous semblent avoir le cœur dur. Voilà le plus beau miracle auquel nous pouvons être confrontés. Et c'est ça le miracle de Noël, avec ses bergers, ses astrologues, qui osent pousser la porte de l'étable et accueillir celui dont tout le monde rejetait. Ils ont découvert la naissance du Sauveur de l'humanité et ont adoré Jésus. Alors, est-ce que nous voulons retrouver l'esprit de Noël ? Alors rappelons-nous que Noël, c'est l'expérience de l'accueil de l'autre, et surtout de l'autre qui est différent. C'est un appel à descendre un peu de nos piédestals d'orgueil où nous nous croyons meilleurs que les autres. Renoncer aussi à tout esprit de jugement, renoncer à nous fier uniquement aux apparences. C'est croire fermement que grâce à Dieu, le meilleur peut se manifester là où l'on pense que le pire et le mauvais y est. C'est renoncer aussi à stigmatiser, à réduire de manière simpliste le bon, le mauvais. Et en fait, c'est quelque chose de très actuel dont on a énormément besoin quand on voit autour de nous les inégalités sociales, les inégalités de sexe, on pense au mouvement MeToo, les inégalités raciales, inutile de rappeler le mouvement Black Lives Matter, un monde qui est toujours plus divisé avec des positions toujours plus tranchées. Quittons cet esprit de jugement. Renonçons à nous fier aux apparences. Noël, c'est croire que le meilleur peut se manifester là où on s'y attend le moins. Rappelons-nous ces paroles de Jean, à ceux qui ont reçu la lumière, elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il ajoutait également que du sein des ténèbres brillera la lumière, car oui, Noël s'est proclamé haut et fort qu'il n'y a pas de ténèbres trop grandes que Dieu ne puisse éclairer de la lumière de sa présence. Joyeux Noël à tous.
Amen.
Merci Pierrick pour ce partage, et j'ai beaucoup appris de ton message. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps d'un échange, et puis je me tourne vers vous, hein, Juliana, Mildred.
C'est vrai que c'était très intéressant, Pierrick. Alors, ce qui m'a le plus... Bon, je ne sais pas si tu voulais faire encore une question.
C'est très intéressant, c'est là ma question. S'il y avait une chose que tu voulais retenir de ce message, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui t'a particulièrement interpellée aujourd'hui?
Alors, pour moi, c'est vrai que la leçon que je retire de là, c'est que Dieu honore ceux qui sont méprisés, en fait. Mm-hmm. Toutes ces personnes qui sont mises de côté, qui ne sont pas valorisées par la société, Dieu leur montre qu'ils ont de la valeur. Et ça me touche. Mm. Et après, par rapport au signe de Jonas aussi, je trouvais intéressant, parce que déjà, Jonas va vers le peuple ennemi pour dire, voilà, vous serez détruits, mais finalement, Dieu est aussi en train de donner une leçon à Jonas. Parce qu'après, quand il n'est pas très content que Dieu a sauvé ce peuple, ben Jonas aussi avait besoin d'un changement dans son cœur. Mm-hmm. Ouais, très intéressant.
Merci. Ouais, pour ma part, c'est la simplicité en fait, avec laquelle Jésus il arrive. Le paradoxe, en fait, c'est un roi, il arrive complètement, enfin, personne vient l'accueillir, enfin, les personnes qui connaissent la parole, qui devraient être là, ils sont pas là, quoi. Et puis aussi le côté, les apparences, en fait. Les personnes qui viennent, c'est ceux que, voilà, en apparence, on penserait pas qu'ils seraient là, et pourtant, ils viennent accueillir Jésus, et ils viennent même l'adorer.
Et déjà, le lieu de sa naissance. Parce que si c'était aujourd'hui, peut-être il serait né dans les meilleures maternités de l'Europe.
Et pas dans la paille.
C'est vrai. Moi, je suis aussi très interpellée par ce choix de Dieu qui va très souvent chercher le faible, celui qu'on ne regarde pas. Et puis ça me pose toutes ces questions de me dire, mais parfois j'ai un regard très jugeant sur les gens. Je peux avoir le sentiment de me dire que je sais mieux qu'eux, que si Jésus revenait aujourd'hui, si Jésus était né aujourd'hui, ben forcément que j'aimerais être de la partie parce que pour plein de raisons. Et je me dis que si Dieu a fait ce choix à ce moment-là, de s'adresser à des gens simples, des bergers, des gens en dehors de la société finalement, pas reconnus, c'est peut-être aussi parce qu'ils étaient les premiers et peut-être les seuls à être capable d'entendre Dieu et d'accepter cette nouvelle incroyable d'un bébé roi, sauveur du monde. Mm. Et peut-être que si j'avais été à cette place-là, et peut-être aujourd'hui encore, je manque de sensibilité à cette voix de Dieu. Parce que quand il appelle, ça peut paraître parfois assez fou. Mais que ces gens-là, justement, ont cette capacité à accepter quelque chose d'incroyable. Et Dieu fait chemin avec eux, je trouve ça juste formidable. Merci en tout cas, Pierrick.
Merci pour vos retours.
Je nous laisse écouter ce chant bien connu du groupe Glorious, Douce Nuit.
Thank you.
paille endormie. C'est l'amour infini.
Les rois mages sont venus avec des offrandes pour célébrer la venue du grand roi, ce tout petit bébé Jésus. Aujourd'hui encore, nous apportons des offrandes dans les églises pour dire merci à Dieu pour ses bénédictions sur nos vies. Et la venue de Jésus sur terre nous montre son amour pour toi, pour moi. Ce Dieu qui se fait homme pour venir rencontrer ses créatures et leur offrir la victoire sur le mal. Nous avons réfléchi ces derniers culte espoir sur ce que mon offrande pour Dieu peut être. Cela peut être de l'argent, de mon temps. Et je crois que souvent j'ai voulu faire quelque chose pour Dieu, lui donner quelque chose de concret, oubliant parfois simplement de me donner à lui. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer un chant que nous pouvons offrir comme offrande à Dieu. Et ce chant dit « Il n'y a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. » Il dit « Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. » Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel ? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus.
l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due.
même état d'esprit de reconnaissance, je vous invite maintenant à offrir à Dieu une prière. Seigneur, merci pour le merveilleux cadeau que tu nous as fait quand tu es venu sur terre. Comme un petit bébé, comme n'importe quel être humain. Tu es venu vivre la même vie que nous. Tu sais exactement ce que l'on peut ressentir face à l'injustice et aux difficultés de ce monde. Nous savons que lorsque nous te prions, tu nous comprends et tu compatis à nos souffrances. Merci Seigneur, parce que tu as montré ton amour pour nous, en vivant comme nous, mais surtout en allant jusqu'à mourir pour nous sauver. Face à un monde malade, ta réponse a été l'amour, et elle sera toujours l'amour. Tu es venu mourir, mais aussi ressusciter, pour montrer qu'en toi, nous avions la victoire sur la mort et le mal qui nous entoure. Tu es venu nous apporter l'espérance d'une vie meilleure avec toi, sans mort, sans pleurs, sans douleur. Merci Seigneur, parce que tu te révèles aux gens simples, à tous ceux qui te cherchent, qui t'écoutent et qui ont foi en ta parole, comme les mages et les bergers lors de ta naissance. Pendant cette période de Noël, nous voulons ne surtout pas passer à côté de cette bonne nouvelle du salut. Aide-nous à te faire de la place dans nos agendas bien chargés, à te donner la seule et unique place qui te revient particulièrement en cette saison, la première place. La place sur le trône de nos vies, pour que tu puisses y régner et que nos vies débordent de ton amour, de ta joie, de ta paix et de ta lumière dans ce monde. Amen.
Amen. Nous sommes dans une ambiance de reconnaissance. Et ça fait vraiment du bien, n'est-ce pas?
Ouais.
Alors, comment mettre tout ça en action? Et voilà que j'ai pensé à une histoire que j'ai entendue il y a quelques temps. Ça vous dit? Voulez-vous la connaître?
Oui, bien sûr.
Alors, un homme très riche a regardé par sa fenêtre et il a vu un pauvre homme qui fouillait dans la poubelle. Apparemment, il cherchait quelque chose à manger. De là, il a pensé, grâce à Dieu, je ne suis pas pauvre. Le pauvre a levé son regard de toute cette poubelle et a vu une ambulance passer à toute allure. Il s'est dit, grâce à Dieu, que je ne suis pas malade. À son tour, le malade, déjà à l'hôpital, a vu une civière. Et sur elle, il y avait encore son vie. Le malade a pensé, grâce à Dieu, je suis encore vivant. Seulement le mort n'a pas pu remercier. Le mort n'a rien pu dire. Et aujourd'hui, c'est le moment de remercier Dieu pour tous les cadeaux qu'il nous a offerts. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de le remercier pour la vie. Une fois, on m'a dit que pour comprendre réellement ce qu'est la vie, tu dois visiter 3 lieux. Est-ce que vous avez une idée?
Non.
Une pouponnière, une maison de naissance, quelque chose comme ça?
Ouais, t'es dans le bon... t'es sur le bon chemin. Alors, il faut visiter un hôpital, une prison et un cimetière. À l'hôpital, tu verras qu'il n'y a rien de plus précieux que la vie. En prison, tu verras qu'il n'y a rien de plus précieux que la liberté. Dans le cimetière, tu verras que notre vie est effectivement fragile et qu'en réalité, nous n'avons aucun pouvoir sur elle. Nous arrivons tous dans ce monde sans rien. Et nous partirons aussi sans rien. Alors, cette semaine, je te propose, cher auditeur, je vous propose cette action. C'est presque un défi.
Okay.
Alors, je vous propose d'être reconnaissant. Assez souvent, nous avons l'habitude de demander des choses. Et c'est vrai que nous avons besoin aussi de beaucoup de choses. Mais cette fois-ci, nous allons juste remercier. Nous allons remercier Dieu pour ce que nous sommes. Nous allons remercier Dieu pour tout ce qu'il nous offre. Ça vous tente?
Très volontiers, oui.
Ouais, carrément. Et je crois que cette période de pandémie nous rappelle bien à quel point c'est un cadeau d'être en vie, en bonne santé et libre de bouger.
Tout à fait. Et voilà, c'est le moment de se dire au revoir. Chère équipe, c'était un véritable plaisir d'être avec vous.
Ouais,
je vous remercie chacun pour tout ce que vous avez apporté. Merci Pierrick.
Merci à vous pour l'invitation et l'accueil.
Merci du partage de la parole de Dieu. Marina, quels sont tes derniers mots pour aujourd'hui ?
Eh bien, je partirai sur cette reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait pour nous, ce cadeau, et puis d'accepter que tout le monde est invité à cette fête, et ça change aussi mon regard sur l'autre.
Super. Juliana ?
Eh bien, moi j'aimerais qu'on parte avec cette idée que Dieu s'adresse à tous ceux qui veulent bien l'écouter et lui faire un peu de place.
Magnifique. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Que l'amour de Dieu t'accompagne aujourd'hui et aussi tous les jours de ta vie. Je te souhaite un joyeux sabbat et à bientôt.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.